burn to explore. The flavor in your ear is the Boy Scout. I make outs, I make all the rappers have doubts. Right. You're fucking right. with the wrong clan and the wrong man, that's it. Now you got to get your doom split. I'm going into my neck sack with my cat. Take off my hat, yes, I'm just cool like that. The dangerous, the ruggedness from the flappish abyss. BLS 97 kiss bastard. I'm gonna live long in this rap game. Niggas know my name, yo.
Got him in the flame, you're jingling, baby. You're jingling, baby.
Here it goes, huh?
Radio G 101.5 FM.
Chase you out of earth.
Il est 20h03 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission de Génération Sport en ce mardi 30 décembre, dernière émission de 2025. Pour l'occasion, on ne sera que deux, l'effectif réduit à cause des fêtes. Et celui qui m'accompagnera ce soir, c'est Mathéo. Salut Mathéo.
Bonsoir Faustin, bonsoir à tous. Tu sais à quoi ça me fait penser un peu ce petit tête-à-tête comme ça, la veille du réveillon. Bah, ça me fait penser à un nouvel an qu'on passe avec sa grand-mère. On est à deux, mais c'est toujours génial. Bah,
ce sera pareil ce soir.
Et je t'ai ramené un petit cadeau, d'ailleurs, je me permets d'enlever ma veste. Je suis parti aux toilettes tout à l'heure, je t'ai pas dit pourquoi.
Il est sorti un magnifique maillot.
Voilà, un magnifique maillot, mais avec un flocage particulier, parce que pour ceux qui savent, je suis supporter de l'OL. Le flocage.
Flocage Hendrick.
Le Flocage Hendrick qui a été commandé et reçu hier. Voilà.
Au cœur de l'actualité.
Exactement, on essaie de se faire plaisir au maximum.
J'avoue, je m'y attendais pas à celui-là. belle surprise. Malheureusement, on n'est pas en stream sur YouTube. Les auditeurs ne peuvent pas le voir.
Oui, c'est ce que je me suis dit en rentrant aussi dans la pièce.
Non, malheureusement, le stream n'est pas lancé. Dommage. Mais on le partagera peut-être sur les réseaux sociaux. Ça en ferait certain.
On peut le faire.
On fera ça à la fin de l'émission. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, notamment Génération Sport. Une émission de clôture d'année. On va tirer les bilans des clubs angevins dans un premier temps, avec les actualités locales, avec un gros point sur le SCO et son mercato aussi. On ira sur la Ligue 1, on retournera sur nos classements qu'on avait essayé de prédire en tout début de saison avec Florian et Amaury qui étaient là pour l'une des premières émissions de la saison. On verra qu'on a été pas si mal. Enfin, ça dépend des.
Ça dépend.
On peut dire que ça va. Il y a eu des surprises quand même dans
ouais,
la Ligue 1.
Ouais.
On enchaînera sur la CAN qui a lieu en ce moment au Maroc. On parlera de NBA et enfin on finira sur des petits quiz qu'on serait préparé l'un et l'autre sur du basket et du football. Les thèmes restent encore cachés. On les découvrira en fin d'émission. On va commencer donc sans plus tarder, comme je le disais, avec le local et le basket, comme on a l'habitude, avec l'UFAB qui ont d'abord été éliminés en Coupe d'Europe contre Villeneuve-d'Ascq. Malgré la victoire là-bas au match retour, pour le dernier match de l'année, les Angevines se déplaçaient à Bourges et ont malheureusement perdu, là aussi, 79-64. Elles finissent donc l'année avec un bilan de 4 victoires pour 7 défaites. Elles avaient très bien commencé avec notamment une belle victoire contre Basketland, actuel leader du championnat. Mais la suite a été plus compliquée. Elles finissent donc l'année à la 8e place tout de même, qualificative pour les playoffs. On a également appris le départ de Batabe Zembar et de Marine Debo, des départs immédiatement comblés par l'arrivée de Sierra Bourdic, médaillée de bronze avec Team USA au basket 3-3 au JO de Paris, et passée par l'ASVEL ainsi que Basketland. On a aussi appris l'arrivée de Victoria Magekoudoumni, qui fait son retour dans le championnat français après un court passage avec First Bank Basketball au Nigeria. Pour le AB, c'est un peu le contraire de leur homologue féminine, car la saison n'avait pas très bien commencé, mais ils ont ensuite enchaîné une série de 7 victoires consécutives et se retrouvent avec un bilan de 10 victoires pour 7 défaites à la 5e place du classement de National 1. Une 5e place qui serait pour le moment synonyme de qualification en poule haute pour la deuxième partie de saison, mais il reste encore 9 matchs pour en être bien sûr. Du côté de Cholet, bilan nul pour les Choletais à la mi-saison avec 7 victoires et 7 défaites. Une saison en dents de scie, sans grosses victoires contre les favoris, mais sans grande désillusion non plus contre les plus faibles. Une élimination en 8e de finale de Coupe de France contre Strasbourg, mais une qualification au prochain tour de Ligue des Champions. Il faudra faire mieux lors de la deuxième partie de saison pour réaliser une saison convaincante. C'est ce qu'on a un peu l'habitude avec Cholet. On a toujours soit un début de saison miraculeux, enfin magique, avec beaucoup de victoires et une deuxième partie plus avec une baisse de régime, soit l'inverse, en espérant que cette année ce soit bel et bien l'inverse. Pour les Ducs, là aussi, la fin d'année a été beaucoup plus compliquée que le début, où ils avaient enchaîné de nombreuses victoires et étaient largement en tête. Ils se sont également qualifiés pour la finale de Continental Cup qui aura lieu en mi-janvier. Cependant, après ça, il y a eu beaucoup plus de défaites et une élimination en Coupe de France face à Rouen. Les Ducs se placent donc à la 3e place de Ligue Magnus derrière Grenoble et Rouen pour commencer l'année 2026. Du côté du Scohan, toujours pas fameux, mais mieux que les saisons précédentes tout de même. Les Scoïstes se placent à la 13e place sur 15 avec 4 victoires et 10 défaites. C'est déjà 4 victoires de plus que la saison précédente. Donc on a une nette amélioration. On peut clairement espérer un maintien pour cette deuxième partie de saison. Pour le SCO Rugby maintenant, en Fédéral 3, le SCO Rugby se retrouve à la 4e place avant la trêve grâce aux 32 points pris lors des 10 premiers matchs avec 6 victoires, 1 nul et 3 défaites ainsi que 4 bonus offensifs et 2 bonus défensifs. Mathéo, est-ce qu'il y a une équipe un peu dans ces actualités locales qui t'a surpris en ce début de saison que t'as bien aimé?
Moi j'ai envie de parler du SCO Rugby parce que je trouve qu'il y a toujours une constance. Pour le coup, c'est quelque chose dont on connaît l'origine quand même, parce que le SCO Rugby, pour les avoir reçus, travaille extrêmement bien. Donc cette constance, elle est pas volée. Mais c'est vrai qu'il y a un moment un peu vers octobre, novembre, où justement on avait des résultats un petit peu moins bons. On pouvait un peu se questionner parce que l'année passée on avait eu un super départ, en début d'année aussi ça marchait bien. Finalement ils ont su rebondir aussi sur la fin. Donc c'est la marque des clubs qui fonctionnent, et on espère peut-être que c'est la bonne année pour se qualifier.
On l'espère, ouais, on verra ça tout au long de l'année évidemment. Petite anecdote moi que j'ai autour du SCO jusqu'au rugby que mes parents m'ont raconté. Ils étaient à la boutique du Sco Foot à l'Atoll qui a réouvert récemment. Et ils ont trouvé quelqu'un qui croyait être à la boutique du Sco Rugby. Voilà, pour dire la place que prend de plus en plus le Sco Rugby dans la ville d'Angers. Certains le confondent avec le Sco Foot.
Bah, ça intéresse. Bah, voilà. Mine de rien.
C'est ça. C'est ma petite anecdote.
Voilà, pas quand une boutique physique pour le Sco Rugby.
Bon, on l'attend. Le message est passé. En tout cas, apparemment, il y aurait des clients. Pour le Sco Foot, maintenant, donc, l'année s'est terminée sur une victoire contre les Herbiers en Coupe de France, leur permettant de passer en 16e de finale pour affronter Toulouse le 10 janvier à Copa. En Ligue 1, le Sco est 10e, à 10 points du Paragiste et 11 points de la relégation, mais également à 5 points de l'Europe. Et j'ai même envie de dire à un seul point, c'est le vainqueur de la Coupe d'Europe, de la Coupe de France, pardon, et serait déjà européen, grâce à de très bons résultats en fin d'année, des points importants pris face à des concurrents directs et des pépites qui se sont révélées, notamment en point de l'attaque. Mathéo, là aussi, une saison remarquable, une début de saison remarquable du Sco d'Angers qu'on n'attendait pas là.
Bah écoute, on va revenir sur nos pronostics après. On va pas se spoil, mais c'est vrai qu'on avait placé le Sco plus bas et je pense que c'est le cas de tout le monde. Enfin bon, personne n'avait pu pronostiquer un Sco aussi haut à si peu de points de l'Europe. C'est vrai que tu l'as dit, j'avais pas la stat en tête par rapport à la Conference League parce qu'à chaque fois on dit 4 points, 5 points, 6 points. Ouais. Enfin à chaque journée, on était quand même plus ou moins proche de la Coupe d'Europe, mais on est à un point de la Conference League. C'est impressionnant quand même. Tu te dis, techniquement, si on enlève la Conference League, t'es à deux fois moins de points de la Coupe d'Europe que de la place de barragiste.
Exactement. Ouais.
Quand t'es le Sco d'Angers, avec le budget que t'as, les recrues qu'on a vues. Ouais. Enfin, il y a quand même la Bolascari qu'on n'a pas pu signer en début de saison.
Vrai,
et tu dis avec ce que tu fais là, avec ta formation qui est quand même exceptionnelle. Et là, je sais pas, peut-être que t'avais prévu d'en parler, mais je vais t'ôter les mots de la bouche. Mais oui. T'as quand même Sidiki Chérif qui est formé au club, qui est en professionnel depuis un an maintenant, qui revient de blessure. Qui revient extrêmement bien, qui
marque les esprits.
Ouais, c'est ça, qui est au top, qui a jamais été aussi fort. Et là, on parlait d'un intérêt. Alors, moi, je reste mesuré sur la somme, mais quand même de Crystal Palace, 25-30 millions. Intérêt du Milan AC aussi.
De Villarreal.
C'est vrai que c'est. Bah, moi, je trouve ça impressionnant quand même de te dire, tu vas aller en plus dans cette situation-là, sortir des joueurs qui, au bout de 6 mois, vont valoir 30 briques.
Ouais, c'est un peu une. Une marque de fabrique aussi du Sco, de sortir des attaquants comme ça, sortis un peu de nulle part, qui se revendent assez cher, qui permettent de poursuivre le projet sportif. En parlant de départ, on a aussi un autre joueur qui pourrait être en direction d'un autre club français, c'est Imad Abdelli, qui est côtoyé par l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille aussi, j'ai entendu dire. Est-ce que, à ton avis, ce serait une bonne idée de le laisser partir ou est-ce qu'il faudrait le garder, le conserver jusqu'à la fin de la saison pour s'assurer le maintien? Quitte à ce qu'ils partent libres cet été.
Bah disons que j'aimerais déjà bien le voir avec le maillot que je porte en ce moment. Ce serait cool. Non mais au-delà de ça, pour le Sco, oui, il faut le garder. Pour moi, c'est en dessous de 4 millions, tu le gardes.
Ok.
Au-dessus, je pense que ça commence à être compliqué de le garder parce que 4 millions pour 6 mois, c'est énorme.
Ouais,
je pense que à 3, le Sco le lâche. Ça me choquerait pas du tout.
Non, non plus.
Mais sportivement, par contre, je pense qu'il faut le garder parce que là, on l'a vu revenir très très bien. Peut-être même meilleur que les 6 derniers mois qu'il avait fait la saison dernière. Parce que Dujeu a su le remettre aussi, le replacer sur le terrain assez intelligemment. Je pense que là, quand on voit tous les clubs qui cherchent à le recruter, enfin, je parle pour Lyon, mais je parle aussi pour Marseille, ils veulent le mettre en 8. Voire un peu en 6, c'est-à-dire que nous, dans l'idée, ce serait de faire un double pivot avec Abdelli. Enfin bon, il y a un an, jamais de la vie, tu te dis, je fais un double pivot avec Abdelli. Donc ça prouve quand même que qu'il y a un remplacement intelligent qui a été fait. Et lui, à ce niveau-là, en plus, ce qui est intéressant aussi pour le Sco, c'est que pour l'instant, à la CAN, il joue pas. Il joue presque pas, il a dû jouer quoi, 10 minutes, je crois. Il avait joué 4 minutes sur le premier match. Non, je crois qu'il n'était pas rentré sur le premier. Il avait joué 4 minutes sur le match face au Burkina Faso. Donc bref, il joue pas. Ce qui est tant mieux parce que c'est ça. Et puis surtout, du coup, il n'y a pas une forte exposition. Non. Et d'autres clubs qui pourraient être intéressés en se disant ah mais lui, mais il a 6 mois de contrat, putain, bien. Donc du coup, ça, c'est un peu ça aussi. Mais bien sûr, je suis le Sco. Honnêtement, je le garde. Après, je me dis aujourd'hui, on a trouvé un équilibre à Angers. Maintenant, si t'enlèves un milieu de terrain. Je trouve que c'est pas non plus une horreur.
Non,
parce qu'il y a des gens derrière, quoi.
Au début de la saison, le duo Belkebla-Beldim, qui marche extrêmement bien au milieu de terrain, c'est notamment à cause ou grâce à ça. On ne sait pas que Abdelli a dû être replacé par rapport au système de la saison précédente. Donc ouais, ce trio milieu terrain, cette pointe en attaque, on a vraiment trouvé de très belles choses au SCO et du jeu est aussi reconnu par ses pairs. Oui. Ça c'est quelque chose qui est beau à voir souvent après les matchs. On a vu notamment c'était De Zerbi qui a encensé le SCO après le match nul arraché à l'OM. C'est ouais des belles images qui prouvent que le SCO monte vraiment en puissance cette saison et on peut espérer plus même qu'une dixième place. Parce que le début de saison, ouais, je suis gourmand.
Franchement, t'es gourmand. Mais après, oui, en soi, moi, du jeu, il me choque de match en match. Donc, écoute, oui, en soi, on pourrait rêver de ça. Mais aujourd'hui, il faut être réaliste quand même. Le SCO, en plus, va sans doute, voilà, on en a parlé, se faire un petit peu piller. Mmh. On sait que Belgdim, cet été aussi, intéressait Toulouse. Est-ce que Toulouse va pas revenir à la charge? Je pense que aujourd'hui, un Belgdim en hiver, ça coûte trop cher. Oui. Mais on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Donc, il y a pas mal de joueurs aussi qui sont à la canne. Donc, s'il y a une blessure à un moment donné, ça peut aussi changer le système. À voir. Prosper Peter, je pense pas qu'il partira non plus. Hein, ça me paraît quand même bouché de chez bouché. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, on est dans un monde du football aussi qui s'intéresse à des joueurs de plus en plus jeunes, qui laissent à peine le temps aussi aux joueurs d'évoluer vraiment en professionnel avant de les acheter. Donc, on est vraiment à l'abri de rien quand on est le SCO aujourd'hui. Mais par contre, pour l'instant, il faut rêver et surtout, il faut vivre l'instant présent et consommer les bonheurs que nous chaque match. Ouais. Voilà.
Exactement, et ça reprendra du coup dès le 10 janvier face à Toulouse en Coupe de France, pour pourquoi pas aussi chercher une belle épopée en Coupe de France, à aller loin, un quart de finale, une demi-finale, une finale, qui sait. On verra ce que ça va donner. Voilà pour le SCO, on va rester sur le foot évidemment, et avec la Ligue 1, on en parlait de nos classements.
Bah exactement, on va parler de nos classements. Je sais pas quelle forme tu veux donner à ça. Est-ce que on prend le classement de base et on énumère les clubs et on dit à quelle place on les avait vus, tout ça.
On va voir un peu quand il y aura des petites anomalies. Est-ce qu'on sait qu'il y en a?
Ah bah oui, il y en a pas mal. On en a vu un petit peu. Donc je sais pas, moi le 18e aujourd'hui c'est Metz. Moi Metz, je les avais mis un petit peu plus haut, mais je les avais mis un petit peu plus haut aussi parce que je m'attendais pas forcément à certains départs. Ouais. Metz, je pense forcément à Idrissa Gueye qui du coup est parti à l'Udinese en Serie A. Donc Idrissa Gueye qui était quand même un gros profil, 18 ans, il sortait d'une bonne saison en Ligue 2, etc. Il est parti à l'Udinese, ça marche pas du tout d'ailleurs en Italie, je crois qu'il a dû faire deux titularisations, un truc comme ça. Enfin, c'est assez catastrophique. Il a dû jouer, je pense, 30% des minutes qui lui étaient données. Enfin, ça marche pas du tout. Mais du coup, c'est pour ça, j'avais ce genre de profil que je voyais exploser. Sadibou Sané aussi que je voyais exploser. Ça a pas du tout marché. Par contre, là où je suis très content, c'est qu'il y a un joueur qui est en train d'exploser. C'est Chita Ishvili. Okay. Qui a fait un gros match contre le PSG et qui était dans mon mercato idéal pour le SCO avant qu'il signe à Metz, avant les rumeurs à Metz, etc. C'est un ailier qui est prêté par le Diamokiev, qui est libre dans 6 mois, etc. Et du coup il est en train d'exploser. Donc Metz a une phase horrible en début de saison. Alors je sais plus c'était quoi la stat, mais
ouais,
ça fait 6 ou 7 défaites.
Ça a mis longtemps à prendre des points. Ouais.
Après ça a marché, série de 3 victoires de suite, c'était une première pour Metz depuis 15 ans je crois dans l'élite. Et puis c'est un peu en train de redescendre, c'est en dents de scie. Donc Metz, est-ce que Metz peut se maintenir ou pas? Ils sont pas largués non plus.
Non, parce qu'on voit, on spoilera pas tout de suite, mais le premier non relégable, enfin hors barragiste, est à 15 points, Metz à 11. Ça peut se faire, c'est jouable.
Pas déconnant, voilà. C'est pas déconnant franchement.
4 points, c'est jouable. Moi Metz, du coup je les ai mis derniers.
Oui.
Premier bon prono, je sais que Amaury et Florian les avaient mis derniers également.
Ok, je comprends. Je comprends. Écoute, ouais, on verra.
Il y avait des doutes.
J'avais noté aussi la venue d'un vieux briscard qui peut les aider. C'est Bounassar, okay, qui est vraiment pressenti pour revenir. Donc, à voir du côté de Metz.
À
ce niveau-là, le 17e, je crois qu'on a le même. Je sais plus.
Ah non, moi j'ai pas du tout mis 17e.
Ah ouais, moi j'ai Nantes.
Ouais, non, moi Nantes, je les avais mis 14e. Mon 17e, okay, j'avais le Havre.
Bah après 14e, on n'est pas à la fin de saison. Nantes prépare un gros mercato quand même.
Non, ça jouait le bas tableau. Il me semble qu'on disait justement qu'il y avait vraiment le classement allait être séparé en deux avec un haut tableau assez serré et le bas tableau là aussi assez serré avec un gap au milieu. Mais ouais, c'est ce qu'on retrouve un peu quand même. Donc ouais, 14e, c'était pas déconnant non plus. Faut voir comment ça va évoluer d'ici la fin de la saison avec ce nouvel entraîneur, une fois de plus.
Bah c'est ça, et puis surtout les recrues, j'ai noté un peu les recrues parce que Nantes est en train de préparer un mercato assez impressionnant. Alors déjà Tilel Tati ne partira pas je pense, parce que je crois que Kita demandait 50 millions, un truc comme ça, enfin des sommes beaucoup trop hautes et assez déconnectées.
Il connaît bien le football ce monsieur.
Oui, je pense, ouais, comme son fils, mais en tout cas en termes de recrues, on parle donc de Cabella qui a fait son premier entraînement aujourd'hui, Valbuena potentiellement, Sissoko donc l'ancien joueur de Strasbourg, on parle d'accord dès aujourd'hui d'ailleurs avec Bochum pour 2 millions d'euros, Abouklal, ça c'est un peu étonnant. Alors un peu moins quand on suit le Torino. Alors je suis pas le Torino, j'ai été me renseigner. je vais pas jusque là, mais Abouklal fait quand même pas une excellente saison. En fait, depuis sa blessure à Toulouse, il a jamais retrouvé le niveau qu'il avait avant. Donc il a un comportement assez assez mauvais sur le terrain, apparemment, de ce que j'ai pu lire. Donc à voir comment ça se passe. Ça reste quand même un joueur qui à Toulouse faisait des choses assez extraordinaires. Et puis on parle donc de Machado aussi. Machado qui a signé, donc ça c'est
intéressant.
Assez intéressant du côté de Nantes pour le mercato. On va voir comment ça se passe. On va passer au 16e qui est Auxerre, que moi j'avais mis plus haut parce que je voyais leur mercato meilleur. Alors je ne les ai pas mis non plus extrêmement haut, je les ai mis 14e, mais je voyais leur mercato un peu plus fonctionnel. Alors après, Sinayoko fonctionne bien, 6 buts, 2 passes D, ça fonctionne. Donc sur le plan individuel, on a des joueurs qui sont bien. Dans le jeu, pour les avoir vus pas mal jouer aussi, je trouve que c'est assez intéressant quand même. Mais par contre, c'est à la finition, ça pêche quoi. Parce que là, j'ai dit Sinayoko, 6 buts, 2 passes D, mais derrière, t'as presque personne.
Mais c'est le souci.
Et c'est vrai qu'Auxerre, moi je les voyais quand même un petit peu plus haut, à voir, là on parle de Romain Fèvre.
Qui est intéressant aussi, un petit nom une fois de plus.
Pourquoi pas, ouais. Après, quand Brest faisait sa grosse saison, Fèvre était pas du tout titulaire. Donc, à voir ce que ça donne. Et puis, on parle potentiellement de Kevin Danois aussi en PL. C'est ce que j'avais noté. Donc, Kevin Danois, pour moi, qui est la grosse satisfaction du côté d'Auxerre. Il est impressionnant à voir jouer. Il a 21 ans. Donc, on verra ce que ça donne. On passe au 15e, qui est Le Havre. Vous avez mis combien, Le Havre?
Voilà, je les ai mis 17e, un peu plus bas, ouais.
Ok, moi je vais les chercher, Le Havre, je sais plus où je les ai mis, je les avais mis dernier, voilà.
Dernier.
Je les avais mis dernier. C'est vrai que je croisais pas en Le Havre, parce que début de saison, donc tu perdais Casimir, Ayou, Koudziev, ouais, Demas, Faudet-Balotouré, Gorgelin, ça fait beaucoup de monde, quoi, donc,
c'est ce qu'on avait dit, ouais, il me semble.
Et finalement, bah, un peu comme le SCO, ça s'en sort bien, Le Havre. Alors après, t'es à 4 points aussi, forcément, de la dernière place. 3 de la place de barragiste, donc il va falloir tenir.
Ouais, t'es pas là, oui.
Non. Non, c'est ça. Et puis surtout, Le Havre, c'est la pire attaque de Ligue 1 avec 13 buts. Donc, à voir ce que ça donne. En plus, éliminé en Coupe de France, donc...
Plus grand chose à jouer.
Bah, c'est ça, tu vas pouvoir te focus, mais par contre, t'es pas en confiance.
C'est ça, ouais.
C'est un peu le risque aussi.
C'est tout ou rien.
C'est ça. 14e, le Paris FC. On va pouvoir faire le bilan du Paris FC, quand même, qui est une équipe...
Ouais, c'était un peu le point d'interrogation. Personne ne savait trop les placer.
Exactement. Il y en a qui parlaient de Coupe d'Europe.
Ouais.
Je trouvais ça tôt, mais en même temps, en Allemagne, t'as eu l'exemple de Leipzig qui est arrivé et qui a très tôt performé. Mais là, c'est vrai que, bon, le recrutement, on va pas se mentir, il était quand même pas top du côté du Paris FC.
On s'y attendait à plus. À plus de choses.
On s'attendait à plus, et puis, ces joueurs-là, je les voyais pas surperformer non plus, quoi. Enfin, Goebbels, on avait vu ce que ça donnait. Otavio, c'est quand même pas...
Non.
Voilà. Traoré, il sortait d'une mauvaise saison à la Real Sociedad. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de recrues qui posaient question. On a des grosses satisfactions. Kebal, qui est quand même une des grosses révélations de cette année en Ligue 1. Mais par contre, oui, c'est pas la place qu'on attendait, 14e. Alors moi, je les ai mis 13e.
Moi, je les avais mis 9. Je les avais un peu plus beau.
Ouais, bah, je peux comprendre. C'est un peu, tu sais, Toulouse bis, la saison immense et tout.
Attends, c'était Amaury qui les avait mis haut. Amaury, il les avait mis 5e, tu vois.
Wow.
il avait grand espoir.
Ouais, bah, il avait, je pense, bah après, c'est encore possible, mais il pouvait avoir grand espoir en le mercato hivernal, du coup.
C'est ça.
Parce qu'avec un effectif comme ça, je pense pas que tu vas chercher la 5e place, mais du coup, mercato hivernal, tu cherches à remplacer donc Amari Traoré encore par Anto Gaye, du coup, de l'Ajax. Voilà, tu veux faire Kalimuendo aussi, c'est ce que j'ai noté, parce qu'en fait,
sympa.
Ce dont on n'a pas parlé aussi, c'est que je pense qu'il mettait beaucoup de respect, peut-être trop de respect, trop de confiance sur leurs deux numéros 9, à savoir Crasso, Goebbels, qui sont pas vraiment des profils pour aller accrocher un top 10 pour moi. Goebbels, il a fait des trucs sympas, mais quand même, Crasso, il faisait des trucs cool en Ligue 2, mais bon, voilà. Du coup, c'est vrai que c'est pas forcément des joueurs type de profil pour un top 10, et c'est vrai qu'il leur en donnait beaucoup trop de confiance, et donc comme l'été dernier tu voulais aller chercher des numéros 9, etc., là t'as deux pistes, t'as Kalimuendo, réalisable, en prêt de Nottingham Forest, pour moi ça ça rentre totalement dans ce qui est possible, et après t'as Moise Kean. Bon, Moise Kean, je pense que c'est impossible, enfin honnêtement,
en prêt ou en achat là,
bah la Fiorentina veut pas le prêter, c'est impossible, donc ça serait achat,
il va falloir lâcher. Ouais, je pense que l'argent n'est pas un problème.
Ouais, mais quand même, je pense que Moïse Kean aujourd'hui, avec la saison qu'il fait l'année dernière, t'es à 40 briques, quoi.
Ouais.
T'es à 40 briques, la Fiorentina veut pas le lâcher, je pense, parce que la Fiorentina, du coup, est bonne dernière de Serie A, et c'est très compliqué.
Si t'as Moïse Kean, c'est très compliqué.
Bah, c'est pour ça. Ça me paraît,
il va peut-être falloir attendre l'été, quoi.
C'est pour ça. Donc, à voir. Et puis, la dernière piste mercato, c'est Disasi. Pour le coup, il y a l'OL qui était sur le coup aussi. L'OL veut un prêt parce que n'a pas d'argent. Chelsea veut absolument le vendre. De toute façon, c'est simple. Il a joué 0 minute en PL cette année. Il a dû en jouer peut-être un ou deux matchs en PL2.
Ouais, il jouait avec la réserve.
Donc, c'est ça, ouais. Donc, du coup, à voir ce que ça donne. Moi, Disasi, c'est un joueur que j'aime moyennement, mais qui sait faire des trucs.
Ouais, quand même, il est sélectionné en équipe de France depuis un temps.
C'est ça, quand il joue à Monaco, c'était pas non plus trop déconnant. Il y a un peu d'erreurs, mais il y a quand même une base sur laquelle t'appuyer.
Ouais, carrément.
Plus que sur Otavio, et je pense que pour 10-15 millions, t'es pas déconnant.
On verra ce que ça donne, en tout cas.
On va passer au 13e. Nice. T'en pensais quoi, toi, Nice?
Nice, j'en pensais une 8e place.
Ok.
Je ne voyais pas si beau non plus.
Ouais, carrément.
8e place, je ne l'imaginais pas avec cette manière-là, surtout ce qui dérange chez Nice. Il pourrait être plus bas au vu de la crise, si on attend encore quelques semaines, si on attendait encore quelques semaines avant la trêve était plus tard, Nice aurait pu couler bien plus bas, je pense.
Oui, carrément. Surtout que là, le fait que Hez parte, c'était pas du tout gagné quand même.
Non.
Faut dire ce qu'il en est. Hez voulait pas partir. On s'est un peu moqué de lui aussi, mais je parle au sein du club. Hein.
Oui.
Mais quand même, je peux comprendre. Après, c'est pas le but du sportif, encore une fois, mais je peux comprendre. On venait de le prolonger, etc. C'était surtout ça la grosse bêtise. Contrat jusqu'en 2029, etc. Il est quand même du coup parti à corps à l'amiable. J'ai pas vu les chiffres passés.
Moi non plus.
Mais du coup, je sais pas ce que ça donne. Après, il est parti. Claude Puel est revenu, justement. Claude Puel, ça représente quand même peut-être la période avec nous laquelle on a découvert Nice, vraiment.
Ouais, c'est ça. Hein.
C'est 2012-2016, ouais, Claude Puel.
Moi, je pense direct à Nice. Hein.
Bah, carrément, ouais. Carrément. À une époque, en plus, où Nice jouait pas la Coupe d'Europe, avait un peu le profil de Toulouse aujourd'hui.
Ouais, je capte ce que tu veux dire.
Donc, je pense qu'ils prennent Claude Puel comme vraiment celui qui, en 6 mois, va essayer de recréer des bases, et puis après, pourquoi pas repartir. Après, ce qui est compliqué à Nice, c'est que...
C'est le Camboré de Nantes.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah oui, carrément. Ouais, ou le Der Zakarian.
Ouais, voilà.
Moderne. mais du coup, ouais, donc, retour de Claude Puel, Ramos, apparemment.
Ok.
C'est sorti quoi aujourd'hui ou hier, Ramos qui veut revenir en Europe, qu'aurait Nice comme prétendant, et ce serait assez proche d'être bouclé quand même.
Sympa,
pourquoi pas. Moi, Ramos en Ligue 1, pourquoi pas. Certaines équipes, ça va être compliqué. Marseille, ça va être dur. Lyon, ça va être dur. Contre Paris, ça va être dur. Dès que t'as des joueurs rapides, ça va être dur. Mais par contre, si vraiment ton idée, c'est vraiment pas défendre,
tu peux avoir quand même un mec qui donne de la voix et qui a beaucoup d'expérience, donc pour Nice qui est en difficulté comme ça, ça peut être aussi un bon apport à ce niveau-là.
Ah bah, en termes d'expérience, oui, je pense que c'est ce que cherche Nice, hein, parce que Nice a envie de solidifier son vestiaire, t'as raison, et c'est pour ça qu'ils font Ben Davies aussi potentiellement.
Okay.
Ils cherchent à faire Ben Davies de Tottenham, du coup le capitaine de la sélection galloise, donc là aussi un profil d'expérience, 32 ans, à voir ce que ça donne. C'est quelqu'un qui a été remis dans l'axe depuis quoi, 5-6 ans je dirais, qui était à gauche avant. À voir ce que ça donne. Moi, pour moi, c'est un recrutement encore plus intelligent que Ramos. Si tu dois faire l'un des deux, tu fais Ben Davies, c'est assuré. Si tu peux faire les deux, pourquoi pas. Surtout que Nice, du coup, a cette capacité à pousser un peu loin ses vieux, entre guillemets. voilà, on pense à Dante, forcément.
Évidemment.
12e, t'avais mis... Enfin, c'est Lorient, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Ouais, Lorient.
Lorient, mis combien? 15e.
Ok, donc plus bas.
Ouais, pour une Ligue 2, je ne voyais pas faire forcément une bonne saison... Bonne saison en Ligue 1, même si c'est pas non plus exceptionnel ce qu'il y a. Il y a quand même des victoires, des matchs nuls, pas trop de défaites. C'est pas si pire, j'ai envie de dire.
Bah non, Lorient ça va, hein, franchement. Après toi, oui, là où tu les as mis, je pense que c'est honnête.
Ouais.
C'est honnête, moi je les avais mis 11e.
Ok.
J'avais vraiment une grosse croyance en Lorient parce que mercato intéressant. Du coup, ils ont pris Kouassi de l'AC Ajaccio, qui est une énorme satisfaction, la révélation au poste de latéral gauche en Ligue 1 sûrement, qui est super fort. Ils ont aussi pris du coup Avon qui est très très bon et qui là du coup est à la CAN d'ailleurs. Comme Kouassi, ils ont des joueurs comme Talbi, Théo Lebris et puis surtout Pablo Pagis aussi qui fonctionne très bien. Donc équipe à suivre sur la deuxième partie de saison, mais équipe qui pour moi va pas descendre.
Non, il y a plus de chance.
Des gros moyens en plus.
C'est plus fort que ce qu'on a en dessous, quoi.
Je pense, ouais. Ouais, largement. D'accord. Ça a plus de confiance que des Auxerre, que des Le Havre aussi, des Nantes, que des Metz. Donc, moi, pour moi, Lorient, très solide. Le 11e, c'est Brest.
Ouais, j'ai mis 12e.
Ok. Bah, moi, je les ai mis 12e aussi. Okay. Donc, on s'est accordé là-dessus. Voilà, bon, bah, Brest, début de saison compliqué, c'est vrai, on les a vus en bas, ils ont réussi à remonter après.
Ouais, ça se cale dans le ventre mou, c'est ce qu'on attendait au final.
Oui, c'est ça, à peu près, ouais. Non, non, franchement, alors, éliminé, si, j'ai mis par Avranches quand même en Coupe de France, il faut le modifier.
C'est
mais c'est tout, quoi. Donc, ça peut potentiellement avoir un effet boule de neige sur la confiance. Sur la confiance aussi, on a le gardien d'Auxerre, Majeki, du coup, qui a été mis au poste de numéro 2, parce que pas mal de boulettes, on en a vu un peu en début de saison. Du coup, c'est Couder qui a pris le poste de numéro 1, sauf que Couder, il est pas fait pour être... Enfin, en tout cas, il a pas été recruté pour être numéro 1 en Ligue 1. Donc, à voir, ça aussi, c'est une forme d'incertitude à Brest. Dixième, donc, le SCO, on en a parlé un peu avant, on va juste donner notre position, parce que, voilà, on a honte.
On
a honte. Sixième aussi. Sixième aussi, mais quand même optimiste au vu de cet été, la position dans laquelle était le SCO, je trouve assez optimiste. Ouais. Je crois qu'on fait le classement plus après le départ de Lepaule.
Il me semble qu'on le fait avant justement.
Ah ouais.
Et que moi je dis un peu 16e, 16e avec Lepaule, hein.
Ouais.
Sans Lepaule.
Ouais, chaud.
Il me semble qu'on était plus sur ça.
Ah ouais, bon bah c'est terrible.
C'est terrible.
Pardon. À ce niveau-là.
On s'excuse.
Bah c'est pas grave, voilà. Le plus important c'est la réalité sportive.
Voilà, maintenant je les vois en Europe.
Ah exactement. Bah il y a un club qui du coup s'éloigne de l'Europe et que nous on avait mis bien en Europe. C'est le club qui est 9e, c'est Monaco. Hein.
Ouais, j'avais mis 3e moi du coup.
Moi j'ai mis 2. Je les ai mis 2, c'est terrible. Mais en fait, il y a un truc que j'avais pas pris en compte, je pense, c'est que généralement la deuxième saison des coachs à Monaco, ça marche pas quoi.
Genre on avait parlé hein, de ça pourtant.
C'est possible.
Cette théorie un peu de.
Ouais, bah ça marche encore cette année du coup. C'est une théorie vachement applicable. Mais c'est vrai qu'après t'as eu beaucoup de départs. Enfin, tu vois, j'avais noté des trucs à l'époque. Les Ben Seguir sont partis et compagnie. T'as un mercato qui est catastrophique.
Ouais, finalement.
Qui est catastrophique. T'as Pogba, il joue pas.
Non.
Fati, il a été bon un peu. Radenski, il a été bon, mais il a été blessé 2 ou 3 mois.
Ouais.
Et puis surtout, tu fais Idumbo, 10 millions à Séville. Le mec, il a joué 60 minutes en 3 mois sur les 3 derniers mois. Pourquoi faire? Donc, ouais. Du coup, c'est con. Derrière, tu veux vendre Illy Nikena, t'as Balogun qui a un peu de retour, mais bon, Balogun, il doit faire beaucoup mieux par rapport à combien tu l'as payé.
Il
donc,
pas transcendant, ouais.
Voilà, je sais pas quoi penser.
Moi, je suis vachement déçu quand même.
Bah oui, oui, oui.
Attends de voir ce que ça peut faire en deuxième partie de saison. En fait, le mercato, quand même, il y avait les noms étaient beaux, mais c'est tout. Ils étaient juste beaux sur le terrain.
Il y en a qu'un qui a marché, quoi.
C'est plus que c'était, quoi.
Même d'ailleurs, ça marche pas. Et c'est vrai qu'en fait, à l'époque, ça questionnait un peu, mais tu dis bon. Pourquoi pas? Derrière, t'as un vivier de jeunes et tout. Ça peut être super intéressant si tu fais monter du monde. Mais là, en plus, t'as Lamine Camara qui va sans doute partir à Sunderland. Tu fais quoi après, quoi? Et Pocognoli, il a rien prouvé pour l'instant, tu sais pas. Là, je suis sur l'affiche classement. T'es à une victoire sur les 5 derniers matchs.
Ouais, c'est terrible.
Donc, ça marche pas du tout, quoi.
Ouais, en effet, ouais, je vois du rouge partout. Là, c'est vrai que Monaco, en ce moment, c'est terrible. Faut voir si Monaco n'est pas européen, ce sera vraiment la plus grosse désillusion, limite, du championnat. J'ai presque envie de dire pire que Nice.
Carrément.
Nice, mais
bien sûr.
Monaco 9e, c'est limite pire que Nice 13e, je trouve.
Ah bah je trouve aussi, ouais. Franchement, pire que ça et pire que Nantes qui descend, par exemple.
Ouais, aussi même.
Franchement,
ouais.
Enfin après avec tout le respect que j'ai pour Nantes, etc. Mais voilà, Nantes, je pense que ça leur ferait un peu du bien et même certains supporters nantais sont un petit peu d'accord aussi sur ce sujet-là. En fait, c'est juste que les quitas aujourd'hui sont trop. Omnipotents, se prennent trop pour des mecs omnipotents, mais ça marche pas du tout. Huitième, moi j'avais le bingo gagnant pour le huitième.
Huitième, moi j'ai mis
Toulouse.
Toulouse que j'ai mis dixième.
Ok. Bon, voilà, normal.
Pas loin.
Bon, puis classique sur les deux dernières saisons, je crois qu'ils font dixième.
Ouais, voilà, j'ai pas pris de risque.
Ouais, c'est ça. Bah, moi du coup, huitième. Grosse saison. Après, Toulouse, c'est un peu le même rythme que les années précédentes. C'est juste que là, du coup, l'Europe, enfin les gros clubs, on va dire, qui sont européens, font moins de points. Donc logiquement, l'Europe se rapproche, la 8e place aussi. Mais c'est vrai que c'est un peu la même dynamique. Après, t'as perdu Canevo, tu l'as bien remplacé. T'as Creswell qui est en train d'exploser. C'est pareil, il va pas falloir le perdre parce que t'as West Ham qui est sur le coup. Moi, j'ai été vachement déçu par Noah Edjouma aussi. C'est ce que j'ai noté, qui pour le coup n'a pas été blessé. qui l'année dernière commençait à monter. C'est un petit jeune du centre de formation, etc., qui commence à monter et qui là a joué 200 minutes, 224
ouais,
minutes, toutes compétitions confondues. Donc à voir. Et puis au niveau du mercato, j'ai noté arriver potentiellement près d'Arizala, qui est un joueur colombien, okay. Un ailier qui du coup pourrait être prêté par le Milan AC.
Okay.
Qui a été acheté là 3 millions donc à Medellin, donc à voir ce que ça peut donner. Je connais pas du tout le profil, je pourrais pas tellement en parler. Par contre, une équipe dont je connais beaucoup les profils et qu'on avait mis très haut, c'est Strasbourg, 7e, que moi du coup j'avais mis 4 si je dis pas de bêtises, ouais 4.
J'ai mis 5. Mais ouais, c'est clair qu'on les voyait meilleurs que certaines équipes qui sont devant en tout cas. Pour la plupart d'entre nous, au vu de la saison, surtout dernière qu'ils avaient fait en Conference League aussi. Après, ça marche bien en Conference League, c'est ça qu'il faut voir.
Oui, ils sont leaders au deuxième.
Oui, ils sont leaders, il me semble. Ouais. C'est ça, leader, on a deux leaders de...
Ouais, et un deuxième avec Paris. Ouais.
C'est ça, ouais. Ouais. Donc en Europe, ça gaze pas mal. Mais après, on peut espérer mieux en Ligue 1. Là, c'est toujours pas assuré d'être européen, c'est septième. Il y a quand même des chances, mais ouais, on peut espérer mieux du côté de Strasbourg. On est un peu déçu, mais sans trop l'être non plus.
Non, et puis après, au bout d'un moment, il faut chercher de la cohérence aussi. C'est que l'année dernière, Strasbourg, c'était ultra étonnant. Pour un profil d'équipe, en fait, qui est, c'est la réserve de Chelsea. Au bout d'un moment, on va pas être caricatural quand on le dit, c'est la vérité. Donc là, l'année dernière, ça marche énormément. T'as Moreira qui explose, mais tu sais pas pourquoi, en fait. Tu te poses la question, parce que à Lyon, pas vraiment de qualité évidente. En Youth League aussi, avec le Benfica, pas vraiment non plus de qualité énorme, mais un bonhomme travailleur. Et là, ça marche pour lui à Strasbourg, tant mieux, mais c'est ce genre de choses que tu pouvais pas.
Ouais, c'est des anomalies.
C'est ça, tu pouvais pas parier sur ça. Donc Strasbourg a beaucoup marché sur ça. Ça peut pas marcher à chaque fois, quoi. Et là, tu fais un gros mercato. Moi, il y a un joueur qui me déçoit, c'est Kendry Paz, qui devrait revenir à Chelsea potentiellement parce qu'il joue pas et que apparemment il fait que d'aller en boîte de nuit, ce qui est assez terrible. Mais bon, écoute, Strasbourg, on verra ce que ça fera. Pour moi, 7e, ça serait mérité.
Ok, on va voir. Peut-être, je pense qu'ils espèrent un peu plus haut.
Ah bah oui.
Après, sur le jeu, c'est vrai que 7e, ça se vaut.
Strasbourg, ça vise la Ligue des Champions.
Oui.
On verra. Une équipe qui pensait peut-être pas être aussi haute, c'est Rennes. 6e. Moi, je les avais mis 10, je crois, ou 11, un truc comme ça.
J'avais vu 6e. Pardon pour ce bégaiement.
Ouais, non, mais pas compliqué en même temps.
Ouais, voilà. C'est revoir Rennes 6e, apparemment, ça me fait bizarre.
C'est un faux qui disjoncte, putain, merde.
Mais ouais, du coup, peut-être un peu de chance aussi, toujours sur ces pronostics-là, mais ouais, Rennes, ça marche bien, là, du coup, la venue d'Esteban Lepol, qui, du coup, il me semble, on n'avait pas vu au moment de faire nos pronostics, qui fait aussi du bien, il arrive à mettre quelques buts.
Il a quoi, 9 buts, 3 passes D de tête?
Il est à 8, là, je le vois dans les
compteurs.
En Ligue 1, il est à 8.
Ouais, il a dû marquer contre. Parce que, du coup, je sais plus, ils ont battu Lyon, la Duchère. Ou le Vendée,
je sais plus.
Bon bref, mais ouais, bon, c'était une équipe au moins
de France. Ouais.
Donc, moi Rennes, du coup, je les ai mis dixième pour le coup, fin d'année satisfaisante. J'y attendais pas. Franchement, moi, je t'avoue, je sais pas toi, mais ce truc de, on pose un ultimatum à Bay et ça marche.
Ouais, c'était un peu inattendu. Enfin, c'est vrai
quoi,
que
dans un animé, quoi, genre, tu fais plus, ok. C'est tout quoi. Enfin, mais sinon, assez impressionnant. On a des joueurs qui reviennent bien aussi. Et puis là, par contre, ce qui est aussi, alors je sais pas si c'est de l'info ou de l'infox en soi, mais du coup, on parlerait potentiellement, en tout cas, c'est ce qui se dit dans la presse, d'une bataille entre Nantes et Rennes pour Franck Hez.
Okay.
Alors que Abibay est encore là et qui fait quand même des choses intéressantes parce que je regarde 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Un peu chelou. J'ai vu pas mal de fois cette news revenir.
Ouais, il a bien remonté quand même.
Bah là pour l'instant c'est assez solide. Je pense que c'est ce qu'il faut garder du côté de Rennes. Ouais. Et puis après au niveau des départs tu verras parce que du coup quand t'as un Merlin plus titulaire qui devrait partir et puis surtout il faut garder Jérémy Jacquet, ça c'est impératif quand même. On a Chelsea et le Real potentiellement dessus donc.
Des gros noms quand même.
On verra ce que ça donne. 5e.
Lyon que j'ai mis 7e.
Ouais, bah je peux comprendre. Moi, je les ai mis 5e dans mon grand optimiste de Lyonnais. Donc, je suis dans le moule. Saison, je trouve assez impressionnante, moi, en termes comptables.
Oui.
Parce que sinon, sur les matchs, c'est pas non plus.
C'est pas le grand jeu.
En début d'année, si, quand même. Il y a des choses impressionnantes.
On en a parlé, c'était pas mal.
Franchement, Lyon est un peu rentré dans le, dans le rang. Je trouve, il y a eu une période quand même où t'as mis 5 ou 6 matchs, tu gagnais pas du tout en Ligue 1, ce qui était assez décevant, mais ce qui en fait était ce qu'on attendait de l'OL, par un énorme recrutement.
Oui.
Je sais pas.
Au vu de la situation du club, c'était compliqué aussi de faire un gros été. Et moi, c'est ça qui me faisait peur aussi, c'est que la situation du club pouvait être bancale. Peut-être que dans le vestiaire, ça pouvait avoir des répercussions et après que ça serait percuté sur le terrain. Au final, ça va. Donc Lyon est un peu au-delà de mes espérances comme ça.
Ouais, bah moi aussi, franchement. Enfin, j'avais mis 5e, mais bon, 5e dans un optimisme énorme. Après, tu fais cette saison, enfin cette demi-saison-là avec Satriano en buteur, quand même.
Ouais, c'est vrai.
Donc, ça a notifié avec tellement de joueurs blessés. Enfin, t'as Mangala qui est censé être ton milieu de terrain titulaire. Il est pas là. Nuama, il est pas là, il est blessé. Fofana, il est pas là, il est blessé. Donc là, quand tout ce petit monde va revenir, sachant qu'en plus là, t'as d'autres news mercato entre guillemets, ça parle d'Ougarté à l'OL. Notamment, on a d'autres recrues aussi, Narte de Brøndby qui est un des top prospects en Suède. Donc ça peut être intéressant. Et puis Abdelli du coup aussi dont on a parlé tout à l'heure. À voir ce que ça peut faire. Lyon, en début d'année, ça disait on veut pas la Coupe d'Europe, enfin on peut pas prétendre à la Coupe d'Europe. Bah là aujourd'hui, apparemment, ce qui se dit en interne, c'est on vise la Ligue des Champions.
Ouais. Bon.
Pitié.
Bah faut toujours être optimiste, mais.
Oui, mais bon, moi si on fait une place en Coupe d'Europe, même Conférence League, oui. Je trouve ça très bien.
Bah, logique, hein. Et puis même justement en Europa League, ça se passe très bien aussi. Donc
ouais. Bah oui,
les prétentions sont.
Bon, après on avait un calendrier aussi.
Oui.
Bon, les rencontres, la seule grosse équipe que t'as rencontrée, t'as perdu. Donc
bon, après perdu, mais vu le match.
Ouais. Moi, je trouve qu'on n'a pas été bon, mais bon. Okay. Après, c'était la période aussi, c'est que tu voyais que des matchs de merde, et puis là, tu te dis ah petite coupe d'Europe et tout, sympa. Okay, ouais. Et au final, on te sort un 11 équipe B en plus contre le Betis. Enfin, ça avait aucun sens. Bon. C'était pour préparer le match contre Paris où en plus on se fait avoir.
Ouais.
Enfin bon. Le quatrième, c'est le LOSC,
ouais.
Que toi, t'avais mis à quatrième place, c'est ça?
Quatrième place, c'est ça.
C'est beau, hein, quand même.
Je l'avais vu juste.
C'est beau parce que recrutement, à ce moment-là, en tout cas, plein de profils qu'on connaît pas. Assez bizarre. Enfin, assez bizarre, non, parce que c'est juste des profils qu'on connaît pas, en fait.
Oui.
Mais bon, moi, il y a quand même des joueurs, Correa et Romain Perrault, forcément, que j'avais noté, que j'avais coché comme. Ouais. Grosse recrue, effectivement, ça marche trop bien pour eux. Mais c'est vrai que sinon, c'est pas des joueurs que t'avais déjà vu jouer potentiellement dans ta vie, en fait.
Non, c'est clair que non.
Donc, c'est beau de les avoir mis quatrième.
Ouais, bah, Lille, c'est souvent quand même une équipe qui se place en haut du classement de Ligue 1. Ils savent y faire avec des joueurs, avec une équipe qui peuvent remodeler. Donc, c'est pour ça que je m'étais dit, ça peut le faire, surtout qu'en dessous, on a quand même pas mal d'hésitations, d'incohérences ou de questionnements. Lille, on avait aussi, évidemment, mais. C'était mon petit pari, j'ai envie de dire, et c'est passé.
Bah c'est passé, surtout que je pense que le LOSC va pas trop recruter. Là, vraisemblablement, il devait chercher un central. Alessandro est bien revenu, donc ça servira à rien. Moi, je les avais mis 7e. Voilà.
Okay.
Je vends la mèche. 3e, c'est Marseille.
Ouais.
Que t'avais mis 2, moi j'avais mis 3. On est plutôt dans le vrai. Marseille, c'était pas choquant. Le mercato énorme de l'OM, enfin c'est quand même impressionnant. Hein. Les mecs qui vont chercher et puis ça se passe bien. En plus, du coup, t'as que 3 entre guillemets indésirables, 3 joueurs qu'ils ont envie de virer. Du coup, c'est Angel Gomez, recrue pour lequel ça a pas marché, mais du coup, bah le gars il arrive libre. Donc c'est pas trop un problème. Si là tu peux le bazarder pour 10, c'est pas grave. Robinho Vaz, ça c'est plus impressionnant, je trouve. Enfin, ça me parle moins. Et Bacola aussi.
Ok.
Et sinon, t'as les satisfactions Vermeeren, etc.
Ouais, évidemment.
Marseille qui est 16e en Ligue des Champions en plus, donc.
Ouais, non, ça se passe vraiment bien. Le jeu proposé par Marseille aussi vraiment intéressant. Notamment, moi, je les ai vus surtout jouer en Ligue des Champions. Ouais, je trouvais ça vraiment du beau jeu. Ils perdent à chaque fois sur des petites injustices, peut-être en Ligue des Champions, mais ouais, c'est franchement sympa ce que propose Marseille cette saison.
On verra si ça arrive à faire mieux que la 3e place.
Ouais.
Je pense que oui, potentiellement, parce qu'ils sont à 4 points du 2e, 5 points du 1er, on les tease un peu, mais on les sait. 2e, donc le PSG, qu'on a émis 1er, j'imagine, tous les deux. C'est pas forcément, en fait, c'est pas une surprise qu'ils soient 2e en soi. La surprise, c'est le 1er.
Oui.
Parce que sinon, le PSG, sur son rythme de croisière, voilà, 2 défaites, 11 victoires, 3 nuls. Bon, il y a rien qui bouge à Paris. Là, sur le mercato, tu parles d'un seul joueur, c'est Diomandé du Sporting.
Ouais.
Pourquoi pas? Bon, voilà,
ça va
Paris,
pas changer
Paris,
drastiquement
quoi.
L'effectif.
Non, et dans le jeu c'est très bon. Enfin,
ouais, ça, t'as
pas grand chose à dire quoi. C'est le bilan.
T'as une équipe de vainqueurs de Ligue des Champions.
Oui, c'est ça.
Y a pas intérêt de changer quelque chose.
Non.
La saison dernière, le début de saison n'était pas non plus excellent, et pourtant à la fin, bah, ils décrochent la Ligue des Champions et le championnat et la Coupe de France. Donc non, il n'y a pas d'inquiétude pour moi du côté de Paris, hein, c'est clair.
Ouais, et puis c'est une équipe qui doit aller rechercher aussi une deuxième, entre guillemets. Enfin, c'est les principaux favoris à leur succession. Alors, il y en a beaucoup qui se dessinent quand même, des favoris, je trouve. Mais c'est quand même le principal favori à sa propre succession.
Ouais, il y a des chances.
Donc forcément, voilà, tu vas pas non plus te focus à fond sur la Ligue 1, surtout que c'est le nouveau format, Ligue des Champions, etc.
Ouais,
les 8 matchs. Mais du coup, ça a profité à une petite équipe, un petit pousset, une petite équipe. C'est Lens, du coup,
ouais,
que t'avais mis combien ?
Que j'avais mis, je crois que c'était celui qui avait mis le plus bas, et Florian m'avait très mal regardé à ce moment-là, je les avais mis 11e.
Ok, ok. Bah, tu vois, moi, je suis pas si loin que ça, parce que je les avais mis 9.
Ouais.
Je les avais mis 9, donc on avait été très dur avec Lens. Mais en même temps, il me semble que, bah en fait, il fallait constituer avec le fait qu'il venait de finir huitième de Ligue 1, je crois.
Ouais,
saison un peu compliquée.
Ouais, c'était ça.
Genre, c'était une huitième place, mais une huitième place où t'es content, tu vois. Pas une huitième place où tu dis, ah putain, on a loupé la rush finale. Non, non,
ouais.
Une huitième place où t'étais content. Et surtout, surtout, c'est une équipe qui avait beaucoup perdu. Tu perdais Danso, El Ainaoui, Medina, Zarouri aussi, alors qu'il est en prêt, mais quand même, c'est des joueurs. Bon, après, Zarouri, c'est juste moi. mais quand même, t'avais ça, t'avais un recrutement des joueurs que tu connaissais pas
vraiment,
trop,
ouais.
Ou alors des gros flops, enfin, Malang Sarr, Hudson-Edouard, tout ça, t'avais Thauvin qui revient.
Pareil, des interrogations, un peu comme Lille.
Ouais, c'est ça. Donc, pour être premier de Ligue 1.
Ouais, fallait miser dessus, hein. C'est vrai que Thauvin est vraiment impressionnant. Je sais pas combien de buts il est, mais il en met pas mal, il en met deux à Angers d'ailleurs. Mais ouais, moi, je l'avais pas vu aussi fort, Thauvin. Je le voyais pas revenir avec une telle confiance et une telle aisance. Faut croire qu'il m'a fait mentir. Bien joué à lui, mais ouais, le Lens clairement la grosse surprise aussi de, je sais pas, bah oui c'est Lens, je pense la plus grosse surprise de début de saison. Il y a pas
forcément.
Il y a aucun doute. Je me disais peut-être par rapport à Monaco 9e.
Non, c'est Lens.
C'est
moi, c'est Lens.
On est
avec
on est
le mercato,
ouais.
Et puis tu te dis, enfin là, le plus impressionnant c'est Udol quoi. Le mec qui vient de Ligue 2, de Metz, 4 fois les croisés, et le gars c'est là c'est. Il te distribue caviar sur caviar, c'est un malade mental ce mec. Puis même les risseurs, bah du coup Malang Sarr on en a parlé, Hudson Edouard qui est en train de performer à fond, Baidoo quand même que bah sur lequel moi j'ai misé un peu Baidoo, mais du coup ça a marché. Sangaré qui a la canne aussi qui est super bon, le milieu. Donc grosse satisfaction en Lens.
Ouais, bravo.
Simplement.
Bravo Lens, soit bravo Florian qui doit être très content derrière son poste de télévision tous les week-ends. Et s'il nous écoute, ben bravo. Tu les avais mis cinquième. T'étais quand même un peu.
Attends, ils les avaient mis cinquième.
Ils les avaient mis cinquième.
Ah oui, c'est beau.
Ouais, bah évidemment, en tant que, il était un peu chauvin, j'imagine. Il a dû les mettre plus haut que s'il pensait vraiment.
Bah il a bien raison. Franchement, il aurait dû les mettre premier. Il aurait eu raison jusqu'au bout.
Bah voilà pour la Ligue 1. On a fait un peu long. Il est 46. Je te propose de ne même pas faire de pause musicale.
C'est ce que j'allais te proposer.
Voilà. On va parler rapidement de la CAN. J'essaie de parler rapidement de la NBA. Et puis on enchaînera sur nos deux petits quiz que j'ai vraiment envie de faire. Enfin, je t'en prie.
Et on va faire ça. Écoute, on va parler. Du coup, je vais parler. Je vais faire un monologue. C'était pas prévu comme ça, mais bon, on a.
C'est parti, ouais, t'inquiète.
Effectivement, on s'est un peu étendu. Donc, la phase de poule de la CAN 2025 qui a rendu son verdict. A commencé par le Maroc, qui a confirmé son statut de grand favori. Pas de calcul pour les Lions de l'Atlas, qui ont validé leur première place avec panache. Une victoire nette et sans bavure, 3-0 face à la Zambie. Hier, après avoir fait match nul face au Mali et battu en ouverture les Comores dans le siège du Maroc, le Mali passe aussi assez curieusement. Les Aigles se qualifient en terminant deuxième sans avoir gagné aucun match. 3 matchs nuls, dont un 0-0 hier contre les Comores. C'est le service minimum, mais ça suffit pour voir les huitièmes. Dans le groupe B, ça passe aussi pour l'Afrique du Sud, dauphin de l'Égypte. Les Bafana nous ont offert le match de la soirée avec une victoire spectaculaire 3-2 contre le Zimbabwe. Et puis dans le groupe C, aujourd'hui, c'est le Nigeria qui s'est qualifié lors de la deuxième journée, rejoint par la Tunisie malgré le nul face au Botswana. Donc si on fait les comptes, en tout cas ce soir, en attendant la fin des rencontres de 20h, les qualifiés, c'est le Maroc, le Mali, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Tunisie et l'Algérie aussi qui avait composté son billet lors de la deuxième journée. Il reste donc 10 places à se distribuer dans les différents groupes. On va faire un tour d'horizon de ce qui se passe. Pour l'instant, dans le groupe D, c'est un duel à distance et un danger aussi pour la deuxième place. Égalité parfaite ou presque entre le Sénégal, 4 points, la RDC, 4 points et puis le Bénin, 3 points aussi, qui est aussi en embuscade. C'est le groupe de la mort pour la suite du tableau, puisque finir deuxième de ce groupe signifie affronter l'Algérie en huitième. Donc les deux matchs qui restent à jouer, c'est Bénin-Sénégal et Botswana-RDC. Dans le groupe E, ça y est, c'est bien, c'est une petite libération pour l'Algérie, donc qui est un peu en roue libre, puisqu'elle a 6 points. Ça y est, elle est qualifiée, l'Algérie. Ça faisait 2 éditions qu'elle était éliminée sans même passer les 8e de finale, donc c'est sans même accéder, pardon, aux 8e de finale, donc c'est une bonne chose pour les Fennecs. En tout cas, le vrai match, lui, il sera ailleurs. C'est Burkina Faso contre Soudan. 3 points, c'est la finale pour la 2e place. C'est presque un 16e de finale, en fait. Ouais. Avant l'heure, l'autre match, ce sera donc Algérie-Guinée équatoriale. Groupe F, choc des Titans, Ivoiro-Camerounais, la Côte d'Ivoire, donc 4 points, et le Cameroun, 4 points, domine ce groupe F. Le Mozambique, lui, reste assez menaçant. À voir donc sur les deux matchs, si jamais une équipe se sera fait avoir. Les plus grands dangers, en tout cas, ceux qui seront le plus en danger, c'est le Cameroun, forcément, qui affronte le Mozambique. Victoire du Mozambique signifie élimination potentielle du Cameroun, qui, avec 4 points, serait sûrement meilleur 3e. Et puis, l'autre match, c'est Gabon Côte d'Ivoire. Si on se projette, en tout cas moi j'ai essayé de me projeter vite fait sur ce que pourrait être avec comme meilleur troisième, donc les huitièmes de finale, donc les meilleurs troisièmes seraient Bénin, Mozambique, Soudan, Angola. Je vois le Sénégal, donc premier de groupe D, contre le Mozambique. On aurait le Mali contre la Tunisie, Égypte, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Afrique du Sud, Cameroun, Maroc, Guinée équatoriale, Nigeria, Angola et Algérie, RDC comme, on va dire, gros match. Sauf énorme surprise, il n'y aurait pas vraiment de grosses rencontres sur ces huitièmes de finale de la CAN. Mais par contre, on aurait un tableau avec le Sénégal et un tableau avec le Maroc. Et ça, c'est intéressant.
Ouais, on aurait...
Voilà, donc les deux principaux favoris, c'est finalement, ça. Comme
belle finale, pour être finaliste. Qui peut se passer, tout simplement.
Exactement.
On espère que ça va arriver. On va voir ça. On va évidemment suivre ça dans les prochaines semaines. Je vais enchaîner du coup avec la NBA, parce que qui dit vacances de Noël dit évidemment Christmas Day en NBA, avec des matchs dès 18h30 pour avoir du basket toute la soirée, toute la journée, même aux États-Unis. On a donc eu le droit à 5 rencontres entre les meilleures équipes de la NBA. La première opposait les Knicks à Cleveland au Madison Square Garden, comme on veut la tradition. Et dans la difficulté, ce sont les New Yorkais qui se sont imposés 126 à 125 en remontant un déficit de 17 points. C'est Paulin qui devait être content. Ensuite, on avait le droit à l'affiche la plus attendue de la soirée, les Spurs de Wemby contre le Thunder de Shai-Gilgeous Alexander. Le premier contre le deuxième de la conférence Ouest. Les Spurs avaient déjà battu récemment OKC à 2 reprises, alors qu'ils n'avaient perdu que 4 matchs depuis le début de la saison. Et c'est grâce à un immense De'Aaron Fox, auteur de 29 points ce soir-là, que les Spurs se sont imposés sur le score de 117 à 102. On a ensuite eu le droit à un Warriors-Mavs, un match assez lassant qui a été assez rectiligne. Et ce sont les Warriors qui sont imposés 126 à 116. C'est ensuite au tour de KD et LeBron de s'affronter pour la 5e fois de leur carrière à Noël. Cette fois-ci, c'est KD et ses Rockets qui ont dominé les Lakers et repartent de Los Angeles avec la victoire 119 à 96. Pour finir, les Nuggets de Nikola Jokic affrontaient les Timberwolves d'Anthony Edwards. On a eu le droit à la performance de la soirée de la part du pivot serbe, qu'elle devient le premier joueur en 50-15-15 avec ses 56 points, 16 rebonds et 15 passes décisives, le tout sur un match ultra serré qui est allé jusqu'en prolongation, mais que les Nuggets ont fini par remporter 142 à 138. Celui qui a dû passer une mauvaise soirée, c'est Rudy Gobert, qui n'a visiblement pas réussi à tenir Nikola Jokic. Autre info en NBA, c'est le premier résultat des votes pour le All-Star Game qui est tombé, le vote du public. Donc, on va faire les 5 premiers par conférence. À l'Ouest, on a Luka Doncic en 1, Nikola Jokic, Stephen Curry, Shai Gilgeous Alexander et Victor Wembanyama en 5e position. À l'Est, c'est Giannis Antetokounmpo qui mène la danse, suivi de Tyrese Maxey, suivi de Jalen Brunson, Cade Cunningham et Donovan Mitchell. À noter que donc Kevin Durant et LeBron James sont 8 et 9e. Kevin Durant est devant LeBron James. Et devant eux, on retrouve Deni Avdija, voilà le joueur israélien qu'on avait découvert à l'Euro cet été et qui fait de très belles choses du côté de Portland. Voilà pour ces petites actualités au NBA. Je te propose d'y aller pour rester un peu raccord avec le basket.
Carrément, donc on va rester en NBA, effectivement. Tu nous as parlé forcément des Spurs, un peu de Wembanyama aussi, et je vais m'en inspirer de lui, ou plutôt de son arrivée en NBA, puisqu'il a donc fini premier à la draft de 2023. C'était jamais arrivé pour un Français, mais il y a eu avant, hein, forcément, des Frenchies draftés ayant joué en NBA. Et je veux que tu m'en cites le maximum. Moi, j'en ai trouvé 30. Tu as jusqu'à, 55, okay. 56.
Tous les draftés, peu importe la position.
peu importe la position, à condition qu'ils aient un peu joué en NBA.
Ouais,
alors ceux, sinon j'ai fait une liste avec ceux qui n'ont pas joué en NBA.
Ouais.
Mais je te laisse me dire.
Ok, bon, on va faire récemment Zakaria Rizaché, Alexandre Sarr, Mohamed Diawara, Bilal Koulibaly, Kylian Hayes. Est-ce que il m'en manque dans ces années-là? Sûrement. Pas comme Dadier. Ousmane Dieng,
ouais.
Il m'en manque, c'est sûr. Pas grave, je passe avant. Anthony Parker, facile. Rudy Gobert, Nicolas Batum, Evan Fournier, Gershon Yabusele. Qui est-ce qu'on a quitté drafté en NBA?
Je peux t'aider en. Allez, j'ai un joueur. Ah, après, c'est vieux, c'est 2005 qui a fini champion NBA avec Miami en 2013. Il a été drafté aux Lakers. Bon, sinon, 2020, j'ai un mec qui a été drafté par les Sixers. J'ai noté les Sixers, mais c'est peut-être le Thunder, je sais plus.
Parce que ouais. Sinon, j'ai Yan Maimi.
Ouais.
C'est pas lui, mais il a été drafté. On a Boris Dio.
Ouais, je l'ai, ouais. Yan Maimi, en 2005.
Ouais, Boris Dio. On a Michael Pietrus.
Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai.
Est-ce que... non, Rigaudeau, il n'a pas été drafté. Il a été transféré. Rudy Gobert, j'ai déjà dit, je suis bête. On a Tidjane Salin.
Ouais.
Le Choleté, évidemment, que j'avais oublié.
Alors, j'en ai un. Tu l'as dit, Evan Fournier?
Ouais.
Ouais, ok, dommage. non, bah, sinon, je vais rester sur ce joueur-là. Dont je t'ai... Après, je ne peux pas t'en dire plus, hein.
Parce que moi, du coup,
je
ne
connais pas. 2005. Sinon, j'en ai un. Ah, bah non, tu l'as dit, Maïmi.
C'est pas J'ai la balle?
Non.
Non. Non, il n'a pas été en NBA.
Non, c'est Ronny Turiaf.
Ronny Turiaf, évidemment. Ouais. Le grand barbu.
Ronny Turiaf. Bon, on va dire que c'est bon. T'en as quand même cité pas mal.
Okay.
C'était un peu chaotique. Hein. J'avais prévu qu'on ait un peu plus de temps.
Ouais,
surtout, moi, je les ai mis dans l'ordre de draft. Kylian Hayes. Ntilikina, pardon.
Oui, Frank Ntilikina,
ouais. Noah. J'ai mis aussi, alors petit kiff, le premier français à avoir joué NBA, Abdul Wahd.
Ok, je l'avais pas.
Moïseau.
Ok.
Donc Pietrus, tu l'as dit. Ouais. Dieng. Dembouya. On a donc Yabusele, Serafin.
Ouais.
Aginsa. Fournier. Dio. Luau Cabarro.
Ah ouais, c'est vrai.
Batum. On a eu Bobois, Petro, je vais tous les faire jusqu'à 30, hein, je suis désolé, mais comme ça on sera au clair.
Ouais, t'as raison.
Gobert, Parker, Maimi, Inglis, Okobo, Malédon.
Malédon, ah oui.
Turiaf, Diabaté, donc Gélabé, effectivement. Mm. T'avais dit quoi, Gélabal?
Gélabal, c'est pas le même joueur. Non.
Ok. Corneli, Decolo, Si, Lauvergne, et voilà, on a notre enfant.
Voilà. Ah, je suis agacé.
Ouais, je peux comprendre. Non, mais c'est très chiant les jeux.
Ouais, j'ai pas pensé équipe de France, j'aurais dû y penser plus, j'aurais eu plus de joueurs.
Bah après, tu te serais peut-être perdu parce que tu vois, en équipe de France, il y a plein de joueurs qui ont été draftés en NBA mais qui ont jamais joué.
Ouais.
Genre, Cordigné, Le Sor, Kamagaté, pardon, Michino, Digbo, Laberry, Besson, Kaba, tout ça, quoi.
Ouais, c'est vrai. Bon. Voilà. Tant pis. c'est pas si pire, on va dire.
Non, ça va. Non, on verra parce que moi j'ai du mal à activer ma mémoire. Donc là, est-ce qu'en deux minutes, je vais pouvoir.
On va voir ça, parce que du coup, on va rester dans l'actualité. C'était un quiz sur l'OL qui était prévu avec la venue d'Hendrick.
Ah, je savais que t'allais faire un truc comme ça.
Ouais, bah, 28 joueurs brésiliens ont joué pour l'OL.
Oh,
est-ce que tu peux nous en citer au moins 10?
Au moins 10.
Voilà, petite information. Le premier est arrivé au club en 1956. J'imagine que
c'est... Ah, c'est fou. Il s'appelait comment?
1956, je l'ai retrouvé. C'était Constantino.
Ok.
Voilà. Le deuxième, c'est plus récent, c'est 93. Il y a un sacré gap.
Bon, je l'ai fait.
Je t'en prie.
Donc, Juninho, Michel Bastos, j'ai Kenny Tété aussi en récent, j'ai Abner, j'ai Lucas Perry,
ouais.
J'ai Adrielson, en fait, je vais juste les faire dans l'ordre d'apparition comme ça, Adrielson, ouais. Jeffinho, j'ai qui d'autre? J'ai Anderson. Sonny Anderson.
Anderson, ouais.
Bah, Hendrick, il a pas joué, je vais pas tricher.
Ouais, je le comptais.
Ah ouais?
Ouais.
Bon, de toute façon, je vais vous laisser du temps.
Il est sur ma fiche Transfermarkt.
Ok. Alors attends, j'essaie de me replonger sur les joueurs plus récents. Bah, il y en a un qui doit être à l'OL. Attends, putain. J'en ai oublié deux ouf, c'est sûr. De toute façon, il n'y en a pas que 8, il y en a 28. Non. C'est terrible.
Ouais, il te manque un mec qui est allé, qui a rejoint le club en 2020, qui est parti en 2022.
Qui est parti en 2022.
Ouais, un milieu de terrain.
Ah oui, j'ai Guimarães, Paqueta, ouais. Tout ça. Bon, voilà, j'en ai 10. Vas-y, essaie de m'en faire deviner d'autres, pourquoi pas.
Un autre qui est venu de Lille en 2019, qui est reparti en 2020.
Ah,
Thiago Mendes.
Ouais. Avec Youssouf Kone.
Qu'est-ce qui est faisable? Un défenseur venu en 2017 du Beşiktaş.
Marcelo. Ouais, c'est vrai qu'il y a Marcelo. Putain, je l'ai oublié, celui qui pétait dans le vestiaire. Voilà, pour l'anecdote, pour ceux qui savaient pas.
Super.
Voilà, il s'est fait virer pour ça.
Un avant-centre un peu plus vieux, là, arrivé en 2005. Il a joué 125 matchs, mis 43 buts. Il est reparti en 2009.
2009, un mec qui est parti en 2009.
Ouais. Un avant-centre.
Très connu.
Pas tant non plus.
Ok.
Pas très connu.
Ah, je l'aurais pas, je pense.
C'était Fred.
Ah ouais, bah oui. Ouais, ouais, c'est vrai.
Est-ce que dans les un peu plus anciens.
Parce qu'après, sinon, les